Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes. Et nous allons aller au chapitre 7 pour regarder la moitié d'un verset. Donc, Actes 7, verset 58, la deuxième partie. Où nous lisons, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et c'est le passage que nous allons regarder ce matin. Alors, c'est un petit peu comment réduit comme verset, mais on a bien entendu tous compris que c'est juste à l'époque, au moment de la comment du procès de la mort d'Étienne. Étienne qui a rendu un bon témoignage, un témoignage vibrant sur le Christ, et qui maintenant est lapidé, mis à mort. Et les membres du Sanhédrin, les témoins, il est dit ici, ceux qui ont voté pour la mort d'Étienne, déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et c'est la première fois qu'on voit Saul apparaître dans l'Écriture. Il ne va pas durer très longtemps puisqu'il va devenir l'apôtre Paul. Mais c'est un verset ou c'est une partie de verset très étrange. C'est un petit peu ce qui me dirige vers cela. C'est ce que j'appellerais un clin d'œil de Dieu. Il y a souvent des clins d'œil comme ça dans l'Écriture, des petites choses qui sont là. C'est comme si Dieu, en fait, sortait de, si je puis dire de façon respectueuse, sortait du développement normal, habituel, de son. Comment de la révélation de son plan de rédemption, de son dessein de salut. Et puis il nous fait un petit clin d'œil qui amène la richesse. Il y a des perles là-dedans. Et c'est un peu comme ça. C'est comme quand quelqu'un, dans une conversation classique, il dit peut-être un petit à côté, comme ça, que personne ne remarque. Mais il y a une personne qui va remarquer, alors il va faire un clin d'œil. Et tout de suite, ça met quelque chose de spécial. Alors ici, on a, en fait, si on pouvait lire ce texte et on enlève la deuxième partie du verset 58, ça pose aucun problème. Ça ne change pas du tout la lecture. Simplement, cet ajout, de cette petite phrase étrange là, ça ajoute quelque chose, une richesse dans la parole. D'abord, elle fait partie de la parole de Dieu, donc elle n'est pas mise là au hasard. C'est Dieu qui la révèle. C'est une chose importante pour nous à savoir. Il n'y a rien de superflu dans la parole de Dieu. Il y a quelques années, il y a des gens qui ont fait une certaine version de la Bible. Alors c'était le Reader's Digest. Vous savez ce que c'est? C'est comment cette compagnie-là qui fait des condensés de livres. Alors ils ont fait un condensé de la Bible. Chaque fois que la Bible se répétait, ils enlevaient le passage. Alors ça laisse une Bible beaucoup plus maigre, beaucoup plus mince, mais c'est beaucoup moins riche. Et ici, nous avons donc quelque chose qui est dans la parole de Dieu pour une raison. Et pour nous, c'est une raison qui est importante et nous voulons le regarder donc. Le fait que les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ça renferme un message très précis. Et c'est le Seigneur, je pense, qui voulait montrer qu'une leçon très importante et dont nous avons besoin à tout moment dans l'histoire de l'Église, dans la vie de l'Église, dans notre vie. C'est, rappelons-nous, c'est le moment où un des piliers de l'Église. Alors, Étienne n'est pas un apôtre, Étienne n'est pas même un ancien en tant que tel. Est-ce qu'il y avait même des classifications à l'époque? Apôtre, oui, mais ancien, on ne sait pas. Bon, Pierre, par la suite, nous l'avons lu tout à l'heure, se déclare ancien comme vous, il parle à des anciens. Mais à cette époque-là, non. Mais Étienne est un pilier dans l'Église de Christ parce que c'est un homme qui est rempli de sagesse et d'esprit, rappelez-vous. C'est pour ça qu'il a été choisi parmi les sept. Voilà un homme qui est puissant dans la prédication, il a été prêché dans les synagogues, il confronte les gens. C'est un homme qui est versé dans l'Ancien Testament de façon fantastique. Quand on lit le début du chapitre 7, enfin tout son exposé, non seulement il connaît tous les détails de l'Ancien Testament, mais il a compris l'esprit de l'Ancien Testament, dans le sens que ce qu'il donne comme défense, ça n'est pas en fait une défense, ce n'est pas une apologie en tant que telle, c'est presque de l'offensive. Il va montrer quel est l'esprit de l'Ancien Testament. C'est que Dieu fait quelque chose qui va mettre la religion complètement à bas. Et il le dit bien entendu à des hommes religieux. Voilà, alors cet homme qui est un pilier, un homme, c'est vraiment un plus dans l'Église, il est mis à mort. Et on peut imaginer la pensée des chrétiens ce jour-là, des gens de l'Église de Jérusalem. Il dit, mais tout est fini, tout est perdu maintenant. Si les gens comme ça s'en vont, mais qu'est-ce que nous allons pouvoir garder? Et il y a ce petit clin d'œil de Dieu qui affirme la présence de Saul. Et des fois, on peut être là à se demander qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver maintenant que une génération passe, par exemple. Eh bien, c'est un message qui nous indique, non, ne regardez pas les hommes. Oui, nous sommes reconnaissants pour ce que les hommes peuvent nous apporter, ce que Dieu fait à travers des hommes comme Étienne, comme d'autres, mais ça n'est pas sur Dieu que doivent se fixer nos regards, sur les hommes, c'est sur Dieu. Et c'est important pour toutes les générations. Alors nous sommes bien des générations après cela, et on peut dire même, et nous pensons déjà au moment où Timothée, tout tremblant, tout peu sûr de lui-même, d'une certaine manière, avec une disposition un peu défiante de lui-même, voilà l'apôtre Paul qui va passer. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? La même chose que les chrétiens, avant que l'apôtre Paul soit l'apôtre Paul. Regardez, portez les yeux sur Dieu. C'est Dieu qui accomplit quelque chose. Donc voilà, un message qui est très important pour nous. Nous sommes en quelque sorte un passage maintenant, enfin peut-être on le réalise moins, mais dans notre vie il y a peut-être des gens qu'on a, vers lesquels on a regardé comme des devanciers. Voilà que les devanciers s'en vont. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien Dieu suscite d'autres personnes. Et ce que je veux relever en premier point ici, c'est que ils posaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme. Et cela peut paraître étrange de plusieurs manières. La première manière, c'est que aujourd'hui, on nous fait croire que la religion, c'est pour les gens qui sont à moitié, qui sont vraiment un peu déficients. C'est une béquille. Hein, c'est pour les grands-mères, c'est pour les gens pas tout à fait clairs, c'est pour les cas sociaux. Et il faut le dire, très souvent, surtout dans notre pays à tradition catholique, il y a beaucoup de gens, d'épaves humaines, qui vont s'approcher de l'Église parce que l'Église, soi-disant, c'est quelque chose de social. Non. Mais on a l'impression que l'Évangile, c'est pour des gens qui ont besoin d'une béquille, c'est pour des gens qui ont été abîmés par la vie et tout ça. Mais ça n'est certainement pas pour les jeunes. Les jeunes, ils ont la vie devant eux. Hein, ils verront plus tard. Les jeunes, ils ont ils mangent la vie à pleines dents. Ça ne les intéresse pas. Et surtout, il ne faut pas leur parler de religion. Mais ça, c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Le problème, c'est que ça peut déteindre sur notre réflexion de façon imperceptible, de façon sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on en ait conscience. Et le problème, c'est que quand on s'approche de jeunes femmes, on commence avec un complexe. Ça ne va pas les intéresser. Mais ici, Dieu œuvre déjà dans le cœur d'un jeune homme. Et il dit lui-même qu'il n'est pas le seul. Parce qu'il dit que parmi ceux de son âge, il était le plus avancé. Mais le plus avancé dans quoi? Dans la recherche religieuse, n'est-ce pas? Et il nous faut, nous, résister contre ces images, que je dirais, des images de magazines. Aujourd'hui, on nous montre des trucs qu'on voit dans les magazines. Toutes les femmes sont heureuses, tous les hommes sont complètement pris par leur travail, tous les jeunes sont pris par les choses de la terre. Non, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est une façade qu'on veut nous faire croire. En fait, ça n'est même pas la réalité. Mais non, même les jeunes ont une recherche. Ils sont dans ce monde et ils sont en porte-à-faux par rapport à des idéaux, peut-être plus que les anciens, peut-être plus. Mais ici, nous avons un jeune homme qui est là et que Dieu choisit. Il ne choisit pas la seconde génération, si je puis dire. Il est déjà en train de préparer une autre génération qui est impensable. Regardons Paul, enfin, regardons Saul. C'est un homme qui est prometteur. C'est un homme qui a énormément de points forts, de grands talents. Mais il cherche à servir Dieu. Et il cherche à servir Dieu selon une tradition des pères. C'est-à-dire, en fait, dans une impasse, une voie sans issue. C'est intéressant. Aujourd'hui, par exemple, c'est une chose qu'on a vue pendant les dernières, je ne sais pas, 15, 20 ans. quand moi j'étais plus jeune, on disait que la papauté était finie. Elle était complètement à côté de la plaque. Même ils avaient refait peau neuve avec Vatican II et tout ça. Mais ça n'intéressait plus les jeunes. Moi je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des tas de grandes, de grandes jamborees, je ne sais pas quel serait le mot, on se retrouvait avec des grandes réunions. Et tout ça. Mais ça, c'est passé. Mais avec le dernier pape, c'était la même chose, n'est-ce pas? Énormément de jeunes étaient vraiment pris par ça. Et il nous faut prendre conscience de ces choses-là, ne pas simplement hausser les épaules, dire que ce n'est rien. Ça aboutira à rien, mais ça montre qu'il y a quelque chose là. Et ce jeune homme, Saul, est un jeune homme qui cherche à servir Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui cherchent à servir Dieu. Et ils le cherchent dans des mauvaises voies, dans des voies qui ne peuvent aller nulle part. Nulle part. Ici, c'est la tradition des pères. D'autres fois, ça va être dans toutes sortes de choses dont on a, dont on a conscience nous-mêmes. La chose importante à garder à l'esprit, même quand on est face à des jeunes, et c'est peut-être le groupe le plus difficile, c'est qu'il y a une connaissance de l'existence de Dieu qui est en tous et en chacun. Tout homme a cela. Et donc, nous avons ce point de contact. Nous avons ce point de contact. Alors, c'est sûr que dans la jeunesse, elle est souvent étouffée et elle est tordue. Je me rappelle, parler avec une jeune personne qui posait des tas de questions. Alors, c'était fantastique, tas de questions au sujet de la foi. Et puis on dit, là on avance, c'est fantastique. On a bien pu parler, présenter l'évangile. Et puis la prochaine fois, c'était plus du tout le problème, il y avait des tas d'autres choses. Ça c'est la jeunesse, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose d'étouffé, de tordu, mais c'est présent. C'est présent. Et il nous faut veiller à garder à l'esprit qu'il y a une certaine sensibilité, même dans des situations qui ne sont pas évidentes, qui ne donnent pas la marque. Donc ici, les témoins déposent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Rappelons-nous que c'est ce clin d'œil de Dieu. Dieu veut nous dire certaines choses. Là, il prépare une nouvelle génération, il prépare en fait un homme qui va être un serviteur choisi, pas simplement choisi dans le sens que Dieu l'a choisi, mais de choix. Quand Paul va poser les armes, l'évangile va avoir touché pratiquement une bonne partie du pourtour de la Méditerranée et tout cela. Alors même que nous sommes dans une période de grande tragédie. Étienne est mort, l'Église va commencer à être persécutée, chassée, Il ne restera plus que les apôtres à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'œuvre peut continuer? Est-ce que le témoignage va continuer? Oui, pourquoi? Parce que Dieu œuvre dans un jeune homme. La deuxième chose que je veux relever, c'est que nous avons ici le fait que c'est d'un jeune homme nommé Saul. Et comme j'ai dit, c'est la première fois qu'on le voit apparaître. Et c'est important ici aussi. Ce n'est pas n'importe qui. Saul, c'est quelqu'un qui est hébreu, né d'hébreu. C'est un homme qui a un pédigré impeccable, sans faute, n'est-ce pas? Il peut tracer. En fait, c'est ça qu'il nous dit. Hébreu, né d'hébreu, ce n'est pas une phrase religieuse. Il lui-même pouvait remonter sa lignée jusqu'à Abraham. Et ça, ce n'était pas peu dire. La manière dont il en parle dans ses épîtres montre que, en fait, c'était quelque chose d'assez remarquable. C'est un homme qui a donc il est de grande naissance pour un juif. C'est un étudiant rabbin à Jérusalem. Et non seulement ça, mais il est au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était le docteur. C'est un membre, en fait, on pourrait dire probablement membre junior, un membre en examen pour devenir à plein, dans le plein sens du terme, un membre du Sanhédrin. C'est quelqu'un de prometteur. Un jeune homme dont l'avenir est tout tracé. Aujourd'hui, on dirait, et on est en période, est-ce qu'on en sort même des périodes électorales, je ne sais pas, mais aujourd'hui, on parlerait d'un jeune loup, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est là, le monde lui appartient. Il y a une carrière brillante qui est toute tracée pour monsieur Saul. Hein, les gens, je pense, je peux imaginer Gamaliel et puis plusieurs des autres, barbe grise du Sanhédrin là, qui étaient là, à voir. Hein, lui, ça va être vraiment un point fort. Là. C'est le grand docteur, c'est le futur grand docteur. Hein, c'est un homme nommé Paul. Ça va être le docteur en Israël. Rappelons-nous quel était son nom. Nicodème était présenté. Tu es le docteur en Israël. Voilà, on a la génération suivante. Mais ce qui est très intéressant à remarquer et à souligner ici, c'est que nous, des siècles et des siècles après, nous ne le connaissons pas comme Saul. Nous ne le connaissons pas ainsi. Et s'il avait été le docteur en Israël, s'il avait été un membre du Sanhédrin, s'il avait été même le meilleur théologien de l'époque, nous l'aurions oublié. Alors, si nous voulons savoir certains noms des théologiens juifs de l'époque, il nous faut aller dans un livre qui s'appelle « L'Antiquité des Juifs », que pratiquement personne n'a lu, n'est-ce pas? Ou alors même dans les témoignages des rabbins. Non, on l'aurait complètement oublié. Ces écrits auraient été oubliés et seulement peut-être quelques érudits auraient entendu parler de cet homme, Saul, originaire de Tarse. Mais nous ne le connaissons pas comme ça. Oui, il avait un avenir brillant, mais pas dans sa voie, pas dans la voie que les hommes lui traçaient et que lui-même se traçait. Saul doit devenir Paul pour avoir véritablement un avenir brillant. Et c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, on voit la même chose, peut-être même d'une façon plus politique, mais on va se dire, bon, peut-être les quelques hommes politiques des dernières années, on se rappelle, mais ceux d'avant, qui, par exemple, a été l'adversaire de tel et tel président lors des élections, il y a peut-être une vingtaine d'années. On ne se rappelle pas vraiment, hein, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Donc, ici, selon le monde, Saul, en fait, n'a aucune chance. Il a un avenir brillant selon les hommes, mais il est Saul. C'est quelqu'un qui sera peut-être connu un peu pendant quelques générations dans le milieu juif, mais rien de plus. Mais il va devenir Paul. Et c'est là la merveille de l'Évangile. C'est que, en fait, Dieu continuellement crée quelque chose de nouveau. Et c'est là la beauté de la prédication. c'est en fait que quand on prêche, quand on annonce la parole, publiquement et, ou même en plus en privé, mais quand on parle la parole, il y a quelque chose qui se crée. Il y a le dessein de Dieu qui se met en branle, qui arrive à se produire. Selon le monde, Saul n'a aucune chance, mais selon l'Évangile, tout est possible. Tout est possible. Parce que l'Évangile transforme du tout au tout. Quiconque Dieu veut. Et c'est pour cela, par exemple, que pour nous, il est important de savoir et de nous tenir sur le fait que Dieu est un Dieu qui a un dessein souverain. Pourquoi? Parce que ce dessein va se passer. Et dans ce dessein, il y a des choses que le monde ne peut même pas imaginer, que la chair ne peut pas imaginer. Et donc, c'est important pour nous aussi, dans le sens qu'il ne faut jamais oublier cette dimension-là, nous n'avons jamais besoin de désespérer. On peut se dire, mais quelle est la situation? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme espoir, nous? Rien ne change, le monde devient pire, même maintenant, ceux qui portent le nom d'Église deviennent pire. On en parlait encore tout à l'heure. Il y a des choses qui donnaient peut-être de l'espoir et qui finalement vont à volo. Quelle est notre attitude? Ne jamais désespérer. Pourquoi? Oui, le monde amène toujours quelque chose qui va être oublié. Mais Dieu fait une œuvre dans le monde. Et il le fait, il fait cette œuvre, même avec l'homme le plus religieux. C'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, c'est une tendance terrible. Mais quand on arrive de plus en plus dans la vérité, il y a une tendance, qui est une tendance charnelle qui vient, c'est de mépriser les autres. Ça, Christ ne l'a jamais fait. Et il nous faut nous en repentir. Pourquoi? Parce que si Dieu œuvre, il peut œuvrer dans l'homme le plus perdu, en fait, et l'homme le plus religieux, le plus perdu. Nous sommes entourés de gens qui sont peut-être super religieux. Est-ce qu'on a de l'espoir? En eux, non. En nous, non. En Dieu, oui. Et c'est très, très important. Parce que même dans la situation la plus désespérée, nous ne sommes pas dans le désespoir, nous ne sommes pas désespérés. Et nous parlons souvent, quand nous allons dans Corinthiens, on parle que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, et nous savons tous dans notre esprit que ce mot, c'est ce mot duquel est formé le mot dynamite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça devient un slogan religieux, ou est-ce que c'est une réalité? Si l'Évangile est la dynamite de Dieu, ça peut faire sauter n'importe quoi. C'est ça, n'est-ce pas? Et Dieu sauve réellement. Donc, il peut sauver un jeune homme, il peut sauver une jeune femme, et souvent, ils ont l'air tellement loin de la chose, n'est-ce pas? Tellement loin de la chose. Alors, quand ils sont jeunes adolescents, ils ont des tas de rêves qui ne tiennent pas du tout compte des choses spirituelles. Quand ils deviennent parents, ils ont trop d'occupations, enfin, ainsi de suite. Il n'y a aucun espoir, sauf que notre espoir est en Dieu et dans l'Évangile. Mais quand nous regardons le fait que les témoins déposent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, cela nous indique aussi quelque chose d'autre. C'est que la religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Et Saul, ici, c'est l'exemple par excellence. Si quelqu'un peut être sauvé par la religion, alors Saul est sauvé, il n'y a pas de problème. Parce qu'il dit lui-même qu'il est, il était parmi... Parmi ces jeunes loups pharisiens, parmi ces étudiants en théologie juive, il était au-delà d'eux. Il était hors concours, en quelque sorte. Donc lui, c'est l'excès, en fait. Saul, c'est l'excès. Hein. Regardez Philippiens 3, il le dit très clairement, là. Philippiens 3, 5 et 6, on peut même commencer carrément à 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, donc selon la loi, il n'y a aucun problème, de la race d'Israël, tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, persécuteur des hérésies, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Vous voyez, Saul est quelqu'un, vraiment, si la religion peut sauver quelqu'un, Saul sera sauvé. Mais Mais que se passe-t-il dans son cœur qui montre qu'il n'est pas sauvé? Parce que voilà un homme super religieux, mais il n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que en fait, il recherche une justice de soi-même. Il recherche une justice qui est fabriquée par lui-même. Regardez Galates 1,14. Il nous le dit lui-même. En Galates 1, verset 14. Bon, vous avez su, verset 13, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et là encore, on peut, en termes juifs, on peut transposer par hérésie. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif, pourquoi les traditions de mes pères. Ça, c'est la justice qui vient de soi. C'est la justice qu'on fabrique. La justice, il vient de la loi. Et malheureusement, on la voit encore aujourd'hui, bien que nous soyons dans des jours de nouvelle alliance, on la voit aujourd'hui dans beaucoup, beaucoup de réunions et de groupes religieux. Cette religion, cette justice qu'on fabrique soi-même. Il n'a donc, Saul de Tarse, il n'a donc aucune justice qui apporte le salut. Pourquoi? Parce que cette justice-là ne peut jamais être parfaite. Et la justice qui apporte le salut doit être parfaite. En dehors, ou plus, moins que parfait, il n'y a pas de salut. C'est absolument impossible. Absolument impossible. Et Saul aussi a une grande confiance dans la chair. Ne tournez pas, mais en Philippiens 3, il nous le dit encore, au verset 4. Il dit, « Moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance où ?» Dans la chair. Dans la chair. Mais bien sûr, on sait que la chair... alors là, il parle bien entendu au conditionnel. « J'aurais sujet de mettre. » Parce que maintenant, ce n'est plus Saul qui parle, c'est Paul. Mais vous voyez comment Paul était là, il avait sujet de mettre sa confiance dans la chair. Et dans la chair, il n'y a pas de base pour la confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe dans la chair qui ne satisfait pas même le cœur de celui qui cherche à mettre sa confiance dans la chair. Donc, à combien plus forte raison, ça ne peut pas satisfaire Dieu. Dieu. Et donc, Saul est là, il cherche à faire sa propre justice, et il dit lui-même, au verset 7 de Philippiens 3, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. » Alors, vous voyez, chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, il a conscience de cela. Alors, il le met du côté plus, du côté de l'actif. Mais il ne sait jamais, il n'a aucune mesure. Il n'a aucune mesure pour lui dire que vraiment il a fait suffisamment. Et c'est pour ça que chaque matin, lui qui, selon la loi, est irréprochable, chaque matin, il faut qu'il fasse toujours davantage. Il faut qu'il continue. Il cherche tous les atouts. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sauvé. Parce que la religion ne peut pas amener le salut. C'est absolument impossible. La religion, et c'est une chose qu'il nous faut garder à l'esprit, la religion des œuvres n'est pas toujours d'ordre religieux. Ça n'est pas toujours d'ordre religieux. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est qu'en fait, tous les gens qui sont autour de nous, même les plus profanes, entre guillemets, en fait, sont des gens qui vivent selon une religion des œuvres. Ils cherchent une justice de soi-même. Une justice qui vient de leur propre façon de faire. Encore hier, je réfléchissais des stars là, qui avaient donné je ne sais plus combien de millions, peut-être simplement 1 million de dollars, mais c'est déjà pas mal pour le truc au Japon là. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que les autres le sachent? Sinon que parce que c'est fabrication des œuvres, n'est-ce pas? Une fabrication d'une justice de soi. Là. Et ça, c'est quelqu'un qui ne franchirait jamais probablement le seuil d'une salle de culte. pas religieux pour un sou, d'une certaine manière, mais qui cherche à faire, qui suit une religion des œuvres, qui cherche à accomplir, à gagner une justice de soi par les œuvres. Et Paul ici, Saul ici cherchait à suivre plus exactement la religion des pères. Et c'est ainsi qu'il devient persécuteur de la foi, persécuteur de ce que Dieu fait. La religion ne peut pas sauver et la religion ne peut pas donner d'assurance. C'est une véritable tyrannie. Et c'est ce que nous voyons, en fait, chez Saul de Tarse. Saul ne peut pas simplement faire les choses à moitié. Dès que l'homme a un caractère entier, il va aller vraiment jusqu'à l'outrance. Et c'est ce que nous voyons dans le prochain point que nous regardons ici quand on examine Saul. Saul, cet homme, en fait, il est une image de l'homme religieux, de l'homme naturel de l'homme naturel en fait, qui est religieux par nature. La religion, c'est-à-dire les efforts pour gagner une acceptation auprès de Dieu par ses propres efforts, par ses propres œuvres, la religion ne peut pas rester neutre face à la grâce. Alors, bien entendu, c'est ce que lui-même dira plus tard. Ça ne peut pas être les œuvres plus la grâce, un mélange des deux. Parce que si c'est grâce, ça détruit le concept d'œuvre. Et si c'est œuvre, ça détruit le concept de grâce. Les œuvres et la grâce ne sont pas simplement différents. Ils sont antithétiques. Ils sont absolument exclusifs. Ils s'excluent mutuellement. C'est impossible de les avoir les deux en même temps. Alors bien entendu, ça n'est pas le message auquel on est habitué dans la société aujourd'hui, ce message de pluralisme. Vivons nos différences. On parle aujourd'hui d'un groupe pluriel. Alors, on en parle un peu moins parce qu'on a vu les limites au cours des dernières années au niveau politique. Mais quand même, l'idée est encore là. C'est bien pour toi, tu as cette façon de faire. Et alors, toutes les perversions sont acceptées aujourd'hui. Et en fait, l'absence de perversion n'est pas tolérée. Mais parce qu'il faut vivre sa vie, il faut vivre ses différences, tout est accepté, tout cela. Mais en fait, il est important pour nous de réaliser que la neutralité est impossible. Il est impossible de réaliser une neutralité. Et c'est important pour nous parce que la tentation, c'est en quelque sorte de mettre un genre de sourdine à la spécificité de l'Évangile. Aujourd'hui, enfin bientôt, il est probable qu'on nous mettra en prison si nous disons « Jésus-Christ est sauveur, le seul sauveur ». Parce qu'on fait de l'ombre aux autres, on ne mettra jamais un musulman en prison parce que lui dit que Allah est un et le prophète, n'est-ce pas? Ça, non, il faut l'accepter parce que ces gens-là croient à la chose. Et pour nous, il est important de réaliser que nous ne devons jamais mettre une sourdine. L'esprit du monde, l'esprit de l'époque veut que tout soit acceptable, mais tout n'est pas acceptable. Et dans la réalité, la religion ne peut pas accepter, ne peut pas supporter, ne peut pas rester neutre face à la grâce. Et bien entendu, nous allons voir de plus en plus que le message de l'Évangile, c'est le message de la grâce, va être de moins en moins toléré par une génération de tolérance. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une génération très religieuse qui ne peut pas tolérer, qui ne peut pas rester neutre face à la grâce. C'est impossible. C'est impossible. Et ici, c'est important pour nous de garder ça à l'esprit. On a lu tout à l'heure ce passage dans Pierre où il disait « Ne soyez pas surpris de la persécution, des souffrances qui vous atteignent, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. » Non, c'est quelque chose d'ordinaire parce que si nous croyons dans la grâce, nous devons, nous ne cherchons pas, mais ça doit engendrer des réactions. La neutralité est impossible. Et je me rappelle lire les propos d'un évangéliste du temps passé. Alors lui, il avait été en butte à beaucoup, beaucoup de persécutions. Et puis les choses étaient devenues plus acceptables à travers un réveil. Et souvent, il disait, mais qu'est devenu le scandale de la croix ? Ça lui posait problème. Alors, ce n'est pas qu'on cherche le scandale, mais la croix est un scandale. Et le mot scandale veut dire quelque chose qui fait trébucher. Hein, c'est ce petit truc-là qui déclenche le piège. Ça doit faire cela. C'est presque automatique, en quelque sorte. Nous ne cherchons pas la bagarre, nous ne cherchons pas l'hostilité, mais elle viendra toute seule. Et nous devons le savoir. Il y a seulement deux camps dans le monde. Alors, les hommes voudraient croire qu'il y a plus de possibilités, mais il y en a seulement deux. Et c'est pour ça que l'homme du monde a horreur de l'Évangile, parce que l'Évangile met ça en lumière, qu'il y a simplement ceux qui sont contre Dieu et contre qui Dieu est, et ceux qui sont pour Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu. Il n'y a que ces deux-là, ces deux catégories. Mais rappelons-nous aussi, parce que nous sommes dans le registre maintenant de parler que la religion ne peut pas rester neutre face à la grâce, mais il y a une façon religieuse de parler de la grâce. Et ça, c'est important pour nous à voir. Nous allons voir des choses de la grâce dans la parole de Dieu. Et je parle pour nous-mêmes, personnellement. Et cela va engendrer des réactions négatives ou peut-être une opposition dans notre cœur. Alors, nous allons dire, non, ça nous ne voulons pas. On est d'accord, on ne veut pas. Mais c'est quelque chose qui va être suscité. Eh bien, dans la mesure où l'Évangile crée cette réaction en nous, c'est à cause de la religion qui habite en nous. Et il nous faut combattre cette chose-là. Il nous faut combattre cette chose-là avec la grâce qui est dans l'Évangile. Et nous allons voir cela au niveau personnel, on va voir ça au niveau d'Église, on va voir ça au niveau dans le monde. Même des gens qui semblent être tout à fait, on dira, dans l'Évangile, mais en fait, il y a par exemple cette recherche de la prééminence. Et vous mettez, l'Évangile est proclamé par la grâce de Dieu, l'Évangile de la grâce est proclamé d'une façon plus claire, et ces gens-là ne peuvent pas le supporter. Et on a des divisions, on a des attaques. Et nous avons des exemples à l'esprit, nous le savons, mais ces choses-là se passent. Qu'est-ce que c'est? C'est le même principe, c'est le fait que la religion ne peut pas tolérer la neutralité quand elle est en présence de la grâce. Et c'est merveilleux, d'un certain côté. Alors, c'est très douloureux, ça peut être très douloureux, hein. On a connu des divisions à cause de ça, on a vu des difficultés dans les églises à cause de ça, mais c'est merveilleux, parce que cela veut dire que le Seigneur peut toujours percer, il peut toujours sonder, et nous rappelons cette prière de David que nous voulons adopter. « Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, pour voir s'il y a en moi, je n'arrive pas à citer texto, mais s'il y a en moi des mauvaises voies. » Et c'est avec cette lumière de l'Évangile, de la grâce, que toutes ces façons religieuses vont être ramenées à la surface, et on prie que le Seigneur nous donnera l'esprit nécessaire pour combattre la chose. Donc, il y a ces deux camps, la religion et la grâce. Et face à la grâce, la religion devient, selon les circonstances, folle de rage. Et nous le voyons dans le cas de Saul. Hein, Saul ne peut pas se contenter de garder les manteaux. Il faut qu'il fasse quelque chose. Alors, il commence à emmener à jeter les gens en prison. Et il les ravage l'Église, comme il dit. Mais à Jérusalem, ça ne suffit pas. Il faut aller à Damas, il faut aller à droite, à gauche et tout ça. Je vais avoir des lettres. Il met vraiment tout, comment on dirait, il met le grand jeu. Ça, c'est tout à fait l'image de l'orgue. À la fin du récital, quand on arrive vers la fin, l'organiste, il va tirer toutes les... Il sort le grand jeu. Et Saul ici fait exactement cela, et nous avons ce début du chapitre 8, là. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Ça ne suffit pas. Il eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Ça ne suffit pas. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée, de Samarie. Ça, c'est ce que le Seigneur fait. Mais regardez, verset 3, Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et puis, il faut qu'il aille ensuite à Damas. Il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que la religion devient folle de rage. Pourquoi cette rage ? Pourquoi cette rage ? Parce que la grâce révèle l'inutilité de la religion. L'inutilité de la religion. La grâce obtient, comme ça, ce que l'autre ne peut pas recevoir après tous ses efforts, tous ses travaux et tout ça. La grâce, elle est au-delà de la religion. Elle montre, en fait, l'échec de la religion. Il y a, j'en ai parlé plusieurs fois déjà, mais il y a ce passage très, très intéressant au début du chapitre 9. Regardez au verset 5. C'est quand le Seigneur confronte Saul lui-même sur le chemin de Damas. Et verset 4, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et alors, au verset 5, c'est très important, on a le grand savant d'Israël, le grand savant religieux, le théologien. Et qu'est-ce que la première chose que ce grand théologien dit, c'est « Que veux-tu que je fasse? Qui es-tu? Que veux-tu que je fasse ?» Il ne sait pas. Celui qui sait ne sait pas. C'est intéressant. Mais regardons, et le Seigneur lui, où est-ce qu'on est, verset 5, il lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et qu'est-ce que Jésus ici veut dire? Eh bien, tout simplement que, en fait, Saul a vu Étienne à un moment où toutes les façades sont enlevées. On sait que Étienne sait qu'il est en train de mourir. Ce n'est pas le moment de faire de la figuration devant les hommes pour leur faire croire qu'il est très religieux, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Saul a vu que Étienne a quelque chose, possède quelque chose que lui, malgré toute sa religion, ne possède pas. Il connaît Dieu. Étienne connaît Dieu. Il voit Dieu. Il parle. Il parle à Dieu. Ça, Saul n'a jamais pu le faire. Jamais pu le faire. Il est jamais suffisamment bon pour connaître Dieu et lui parler comme à un ami. La religion, c'est énormément de choses au sujet de Dieu. La grâce connaît Dieu. Ça, c'est la différence. Et on pourrait même aller plus loin. La grâce, c'est être connu de Dieu. Et on pense à ce passage c'est Matthieu 24, n'est-ce pas ? « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait en ton nom des tas de choses ?» Et là, on voit même résurrection des morts. « N'avons-nous pas prêché ?» Ça, c'était des théologiens qui parlaient. Est-ce que le Seigneur va leur dire « Non, non, vous n'avez pas fait ces choses en mon nom ?» Si, ils les ont faites. Mais le point important se situe avant cela. « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » C'est cela. Et Saul, malgré tout ce qu'il faisait, savait en lui-même qu'il n'était pas connu. Ça, c'est une connaissance qu'on ne peut pas enlever, et que lui-même ne pouvait pas enlever. Étienne, non seulement sans religion, mais en fait, il est, comment on pourrait dire, il est traître à la religion de ses pères. Cette tradition des pères que Saul poursuit sans arrêt. Étienne, sans cette religion, une racaille, un faux frère, tout ça, il possède ce que la religion de Saul ne lui a jamais acquise. Il a cela, la connaissance de Dieu. Et donc, la grâce prouve, démontre et étale en grand devant les yeux de la personne l'inutilité de la religion. Et souvent, on a ça. Les gens vont dire, on va leur présenter de l'évangile, et ils saisissent tout d'un coup que non, ça n'est rien de tout ce qu'on a fait, c'est simplement croire à Jésus. Il dit, mais alors, tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien? Et c'est une offense, n'est-ce pas, pour l'être humain? Eh bien non, ça ne sert à rien. Rien du tout. Rien du tout. C'est comme tout l'argent qu'on a misé sur le mauvais cheval, c'est perdu, ça tombe dans le sac, n'est-ce pas? Pas perdu pour tout le monde, mais c'est perdu. Donc la grâce révèle l'inutilité de la religion. Et deuxième raison pour laquelle la grâce crée ou suscite la rage folle de l'homme religieux, c'est que la grâce humilie l'être humain. Surtout l'homme religieux. Pourquoi ? Parce que, en fait, la religion se base sans cesse sur le faire.
Faire, faire, faire. Il faut que je fasse davantage. Tous les jours, Saul se lève et il faut qu'il fasse. Il faut qu'il fasse. Ou il faut qu'il ne fasse pas certaines choses. Mais là, il y a une hérésie qui se lève. Ça pas simplement que, comme disaient les anciens, bon, laissez courir, vous allez voir, ça va disparaître. Non, il faut faire, faire, faire. Pourquoi? Parce que je suis la religion. Mais la grâce n'est pas une question de faire. C'est une révélation. C'est donné. C'est donné. Et la révélation que la grâce donne, ça n'est pas qu'il faut faire, mais c'est que c'est fait. C'est que c'est fait. Et l'homme n'aime pas, l'être humain n'aime pas cela. Il faut qu'il le fasse. Et combien de fois, même une fois qu'on est dans la grâce, combien de fois on se surprend en train d'ajouter nos œuvres. D'ajouter nos œuvres. Si le Seigneur doit nous accepter à la fin des temps, oui, oui, c'est parce que Jésus a tout ça. Et parce qu'on est bon chrétien. Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pourtant exactement tout le message de la Bible. On peut regarder dans des tas de passages, le temps passe, on va laisser, mais la grâce est une révélation, c'est donné. C'est un salut qui est donné. Et il est donné au pire des hommes. Pourquoi? Parce que ça n'est pas un problème. Parce que la grâce ne prend pas en compte les actions, le faire. C'est simplement ce qui est donné. On n'arrive pas à la grâce. On n'a pas besoin d'étapes, on n'a pas besoin de paliers pour arriver à la grâce. Et c'est là la grande erreur des gens qui, dans les églises, cherchent à être, entre guillemets, sanctifiés, c'est-à-dire à grandir dans l'acceptation de Dieu. Non, c'est donné, c'est révélé. Et ça, c'est vraiment important pour nous à saisir, vraiment important. Et l'homme n'aime pas cela. Pourquoi? Parce que d'une part, ça le met à la merci de Dieu. Si Dieu veut lui faire grâce, alors béni soit le Seigneur. Si Dieu ne veut pas lui faire grâce, alors béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Et ça, on ne veut plus, on n'aime pas cela. Pourquoi? Parce que l'être humain veut être le maître de son salut. Il veut être en contrôle. Et la grâce révèle que le salut est en un autre. C'est en celui qui a été donné, c'est celui qui a été pourvu, qui a été donné par Dieu. Et c'est une chose qui est terriblement humiliante pour l'être humain dans sa déchéance. Mais pour celui en qui Dieu œuvre, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que ça lui donne espoir. Parce que si Dieu œuvre dans notre cœur, alors nous voyons tout le péché. Nous voyons que jamais, jamais nous ne pouvons atteindre Dieu. Et c'est là que Dieu révèle son évangile. Il a donné. Père, disait Isaac à Abraham, Père, je vois le bois, je vois le couteau, je vois le feu, mais où est la victime? Le Seigneur se pourvoira d'un agneau. Et il a fourni son agneau. Il l'a envoyé, n'est-ce pas? Et c'est en lui. C'est pour cela que ce mot substitution, le fait que Dieu a donné quelqu'un à la place, est tellement merveilleux pour nous. Alors, juste pour terminer, parce qu'on pourrait dire des tas d'autres choses encore, mais on voit combien il nous faut insister, pour nous-mêmes, avant toute autre chose, sur la grâce, sur le fait que le salut, c'est pas grâce, c'est quelque chose qui est révélé, c'est quelque chose qui est donné par Dieu, qui ne vient pas de l'homme. Il nous faut insister sur ces choses-là, parce que c'est la merveille de notre salut, c'est aussi la seule voie de salut, la seule chose qu'on peut dire aux autres, c'est la seule chose qui peut nous donner de l'espoir, même dans la situation la plus désespérée. Mais voyons un peu les aspects qui peuvent nous encourager et nous réjouir. C'est impossible à prévoir. Impossible à prévoir. Alors, il est possible que les apôtres se soient réunis en petit groupe, là, et ils ont dit, mais Étienne, mort maintenant, regardez, ça commence, la température commence à monter. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et les apôtres, tous apôtres qu'ils étaient, tous inspirés divinement qu'ils étaient, tous les piliers de l'Église naissante qu'ils étaient, n'avaient aucun moyen de prévoir ce que Dieu allait faire. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Aujourd'hui, on est dans telle situation. personnel ou peut-être dans notre groupe. Mais on peut se demander qu'est-ce que le Seigneur va faire, qu'est-ce qu'il peut faire avec nous. Tout est contre nous, sauf le Seigneur. Et nous ne pouvons pas prévoir ce que le Seigneur peut faire. N'est-ce pas merveilleux? Moi, je pense que c'est quelque chose de fantastique, en fait. Et je crois que le Seigneur le fait à dessein, parce qu'il est jaloux pour sa gloire. Parce que si nous pouvions prévoir ce qu'il va faire, alors d'une manière ou d'une autre, on essaierait d'y mettre un petit peu de nous-mêmes. Et d'avoir la gloire après, n'est-ce pas? Or, le monstre est toujours là. Le monstre est toujours là. Dieu n'est pas à l'œuvre dans le monde pour faire une église qui soit reconnaissable aux yeux des hommes, de laquelle les hommes puissent dire « Ah, ça c'est vraiment une œuvre de Dieu ». Les hommes ne le diront jamais. C'est une œuvre de Dieu, mais les hommes ne le verront jamais. Il n'est pas là pour rendre des hommes décents, respectables, et il n'est pas en fait pour faire quelque chose de meilleur. Il est là à l'œuvre pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose en fait qui est étranger dans ce monde. Parce que s'il était simplement pour faire une œuvre d'amélioration, alors la religion avec sa crainte, ça suffit. Hein. On voit des gens qui sont remplis de grande moralité aujourd'hui dans la religion. Non, non, Dieu n'est pas là. Son grand dessein, c'est quoi? Son grand dessein, en touchant Saul de Tarse, quelqu'un qui était absolument imprévisible, et même après qu'il vienne, il va à Jérusalem, il cherche à se joindre à l'Église, et les gens ne veulent pas de lui. Ils ne peuvent pas croire que c'est vrai. Vous voyez, c'est vraiment une œuvre de Dieu, là. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu cherche à faire? Eh bien, Paul nous le dit en Galates, chapitre 1, et on va terminer avec cela. En Galates, chapitre 1, il nous montre exactement ce que Dieu voulait faire quand il l'a touché avec cette œuvre inimaginable, inimaginable. Regardez, on va commencer au verset 13. « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Alors, maintenant j'ai compris. Voilà, Dieu, ce qu'il veut faire, là, il a pris une star. N'est-ce pas ce qu'on voit aujourd'hui? Hein? On va avoir ces super témoignages, là. Dieu a touché une star du cinéma ou une star du sport. Et là, ça ramène une grande gloire à Dieu. Non, regardez verset 15. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par son fils, de quoi? De révéler en moi son fils. » Son fils. Voilà ce que Dieu fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes un petit groupe. On est peut-être découragé. On se demande qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. On se demande qu'est-ce que ça peut devenir. Et on ne voit que le découragement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, Dieu va faire quelque chose qui va révéler son fils. Son fils. Il va le faire en nous. Il va le faire aussi d'une manière nouvelle, d'une manière qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est ça la merveille de l'Évangile. C'est pour ça que nos regards doivent être fixés sur Dieu lui-même et seulement Dieu. Seulement Dieu. Il va peut-être toucher une jeune personne qui va venir comme ça, comme on dit, out of the blue. Comment est-ce qu'on dit ça? De façon imprévisible. Et de manière qu'on pourra dire, et qu'on pourra seulement dire, c'est Dieu qui l'a fait. C'est l'œuvre de Dieu, c'est merveilleux dans nos yeux. Donc, encourageons-nous, réjouissons-nous de ces petites circonstances que nous-mêmes, nous ne remarquons pas. Qui parmi les chrétiens, à cette époque-là, ont remarqué que les témoins ont posé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul? Personne ne pouvait remarquer ça. Simplement, on a ce petit clin d'œil de Dieu. Prions pour les clins d'œil de Dieu, n'est-ce pas? Et réjouissons-nous dans ce Dieu qui est un Dieu tellement merveilleux. Amen.